À Guillaume Tabar.
Bonjour David.
Pendant que l'Assemblée s'apprête à clore l'épisode du budget, enfin dirais-je, le Sénat, lui, entame son examen des projets de loi sur la fin de vie. Faut-il s'attendre à ce que les sénateurs reviennent sur le vote des députés ?
Alors, d'abord, vous avez raison de parler de texte au pluriel sur la fin de vie, puisqu'il y en a un sur les soins palliatifs. Celui-là est consensuel et nécessaire, à condition que les moyens budgétaires suivent, et un second qui légalise l'aide à mourir par l'euthanasie ou le suicide assisté. Et c'est sur ce texte qu'on attendait une opposition entre les deux chambres. Les sénateurs, et le premier d'entre eux, Gérard Larcher en tête, s'étant montré inquiet, comme le sont d'ailleurs la plupart des soignants, à l'idée d'assimiler un geste létal à un soin. Eh bien, la semaine dernière, grosse surprise en commission des affaires sociales. Plutôt que s'opposer à l'euthanasie, les sénateurs ont préféré endurcir les conditions d'accès, notamment mécontentant au passage les militants autant que les opposants au droit, je mets droit entre guillemets, à mourir.
Mais alors s'ils déçoivent les deux camps, n'est-ce pas que les sénateurs ont trouvé une position d'équilibre?
Écoutez, un équilibre d'affichage peut toujours être trompeur. Car de quoi s'agit-il à propos de la fin de vie? Il ne s'agit pas, comme pour le budget par exemple, de déplacer quelques curseurs comptables. Il s'agit de répondre à une question vertigineuse. Un geste qui donne la mort à autrui, ou que l'on se donne à soi-même, doit-il être autorisé ou interdit au nom de la dignité humaine? Donc on est bien sur un principe fondamental. Alors c'est vrai que le Sénat durcit les conditions d'accès à ce droit. On passe d'un droit à l'euthanasie à une exception d'euthanasie. Il ne suffirait plus d'être en phase avancée d'une maladie, mais bien en phase terminale. Mais durcir les conditions, on peut prendre la question sous l'angle que l'on veut, cela revient quand même à valider le principe. Le Sénat prétend donc mettre des verrous pour ne pas aller aussi loin que la version votée à l'Assemblée. Mais regardons ce qui s'est passé en Belgique, au Canada ou ailleurs. À chaque fois, on a fait passer l'euthanasie en additionnant des verrous que l'on a ensuite fait méthodiquement sauter.
Comment expliquez-vous cette position inattendue du Sénat ?
Écoutez, que les sénateurs veuillent faire leur travail de législateur, c'est légitime. Que leurs convictions soient plus variées qu'on le disait, c'est la réalité. Ensuite, il y a un penchant naturel du Sénat à chercher le compromis plutôt que l'affrontement. Sur autre chose que sur des principes, ça peut se comprendre. Mais comment ignorer chez certains, tout simplement, la peur de passer pour des ringards, la peur de rater le train de la modernité, la peur d'être regardé comme des vieux réacs, comme le dit une sénatrice LR. Une fois encore, toute conviction est respectable, mais quand on préfère préserver son image plutôt qu'affronter des vents idéologiques dominants, ça n'est jamais très bon signe.
Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, merci et à demain. Et maintenant, l'invité de la matinale, ancien ambassadeur de France en Allemagne, ancien conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, avant de rejoindre l'ambassade de France à Washington. Il publie Sherpa aux éditions Talendier. Et si quelqu'un peut nous dire où Donald Trump emmène les relations internationales un an après son retour à la Maison Blanche, c'est bien ce grand serviteur de la France. Philippe-Étienne, bonjour.
Bonjour.
J'ai omis en vous présentant, vous avez un CV long comme le bras, mais j'ai oublié quelque chose d'important, puisque vous avez présidé les commémorations du 80e anniversaire de la libération de la France en 2024 et 2025. En clair, il a été question à cette occasion de célébrer les alliés de toute une époque, d'une époque où les Américains nous protégeaient. Et vous avez été dans cette, si j'ose dire, nostalgie, et en même temps confronté au rôle des États-Unis qui ont bien changé depuis 1945. Est-ce que vous avez le vertige, Philippe-Étienne ?
Alors, nostalgie, quand on parle des événements il y a 80 ans, pas seulement, parce que à l'époque, c'est notre libération, mais c'est aussi la restauration de notre démocratie, de notre république. Ce sont des enjeux qu'on retrouve aujourd'hui. Et on les retrouve à la fois au plan intérieur, à cause de l'état de notre société et de nos démocraties occidentales, mais aussi, effectivement, au plan international. Et rencontrer ces vétérans américains, comme on dit, ces personnes de plus de 100 ans qui sont encore là, et me dire qu'ils ont libéré la France avec nos résistants, avec d'autres, c'était très impressionnant, effectivement. Et cela montre dans la durée ce que représente cette relation transatlantique. Mais vous avez raison, il y a la durée, il y a les choses qu'on aimerait préserver, et puis il y a ce qui se passe en ce moment. Et ce qui se passe en ce moment, c'est, je crois, un moment aussi très important pour notre histoire et pour les Européens. Parce que nous sommes devant une réalité qui est que le monde a changé et que nous, les Européens, nous devons davantage nous prendre en charge.
C'est la conclusion de votre livre, d'ailleurs. La conclusion dit l'Europe a un rôle à jouer. Et vous êtes optimiste, on y reviendra. Avant cela, ça fait un an que Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Et vous parliez du temps long, et je voudrais vous parler de la vitesse. Donald Trump roule en Ferrari. Le Quai d'Orsay français est un paquebot avec une politique qui s'inscrit dans le temps long parce qu'on ne construit rien dans l'immédiateté. N'empêche, Donald Trump impose à la diplomatie un rythme nouveau. Comment cette diplomatie peut-elle s'adapter quand il y a un dossier tous les jours, toutes les heures, l'augmentation des droits de douane aux États-Unis sur le champagne et les vins, 200% décision ou annoncée de Trump aujourd'hui, Conseil de la paix hier avec l'espèce d'organisation parallèle à l'ONU, la veille le Groenland, l'avant-veille le Venezuela. Que peut la diplomatie face à un tel fenceur?
Alors d'abord, je crois qu'il faut se rendre compte qu'effectivement qu'il y a là une technique de communication, une technique d'occupation, de saturation. Non seulement on a le président des États-Unis, ce qui n'est pas rien, mais en plus on a quelqu'un qui en effet prend des initiatives, fait des déclarations à toute heure du jour et pour nous de la nuit avec les décalages horaires. Et donc la première chose à faire, et on l'avait déjà ça un peu, mais beaucoup moins bien sûr, avec les tweets du premier mandat, c'est nous de rester sur notre chemin, de regarder des constantes, comme celle que je rappelais tout à l'heure, sur l'importance pour les Européens de se prendre en charge. La deuxième chose à faire, c'est quand même de s'adapter. Alors, je ne suis plus au Quai d'Orsay, donc je vais être d'autant plus à l'aise pour le défendre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais désormais, au niveau de la communication, c'est le sens de votre question, il y a quand même une stratégie de réponse beaucoup plus rapide à l'heure des réseaux sociaux. Il faut s'adapter. Donc voilà, les deux réponses pour moi, c'est s'adapter, y compris et notamment en communication, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser emporter, mais aussi quand même savoir sur le fond des choses, choisir son cours et y rester.
Alors, vous distinguez la communication de la diplomatie et des faits?
Non, la communication fait partie de la diplomatie.
Elle fait partie de la diplomatie, mais quand on a quelqu'un qui dit, moi je vais récupérer le Groenland, que vous le vouliez ou non, il est dans la communication, oui, dans des intentions fermes, parce que c'est pas un tweet et une réponse à un tweet qui vont l'en empêcher.
Mais bien sûr, non, bien sûr, les deux sont liés, encore une fois, la communication dans notre monde, c'est une partie très importante de la diplomatie et de la politique. Et donc, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord évaluer effectivement le sens de ce qui est dit. Le Groenland, je ne veux pas tout ramener à l'expérience que j'ai eue quand j'étais aux États-Unis, mais il parlait déjà du Groenland dans son premier mandat. La différence avec le deuxième mandat, c'est que maintenant, il veut vraiment, le président Trump n'a plus de contraintes dans son entourage. Il est même plutôt encouragé à aller de l'avant par ce nouvel entourage. Et donc, en tout cas par certains. Et donc, il faut que nous prenions au sérieux ce qu'il dit, mais en même temps, que nous évaluions ce qui, dans la manière dont il le dit, relève de la tactique, de l'intimidation et comment on peut arriver à un résultat commun, si on peut arriver à un résultat commun, ou si nous devons nous aussi répondre par nos propres instruments. C'est toute la question du débat actuel entre les Européens sur comment répondre aux dernières déclarations très très fortes, je vais dire, du président Trump.
Philippe Etienne est l'invité de la matinale. Il a été le principal conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Il a été ambassadeur à Washington et à Berlin. La rationalité, la patience, le sang-froid, c'est ce que je vois en face de moi en ce moment. Mais comment agit-on face à quelqu'un qui n'est pas nécessairement rationnel dans sa prise de décision?
Alors, je dirais aussi la détermination. Mm-hmm. Détermination et la persistance dans ses objectifs. Donc, moi, d'après mon expérience, je crois qu'on réagit en maintenant le dialogue, en expliquant ce qu'on propose nous-mêmes, mais face à ce comportement qui, j'ai utilisé le mot intimidation, le mot coercition n'est pas, dans ce cas, abusif, je crois. Il faut aussi dire calmement ce que l'on est prêt à faire pour se défendre, pour défendre ses intérêts.
Quand le principal argument diplomatique d'un pays, c'est l'augmentation de ses droits de douane, par exemple, on l'a vu ce matin, j'augmente de 200% les taxes sur les vins et spiritueux, ce qui complète ce qui s'est décidé cet été avec des tarifs augmentés de 15%. Est-ce qu'il y a une réponse diplomatique à ça ? C'est, une fois que quelqu'un a dit bah, c'est plus 200%, la diplomatie ou la discussion a-t-elle encore un sens ?
Alors d'abord, il faut savoir que les droits de douane, c'est l'arme préférée du président Trump, mais c'est une arme un peu fragile. Elle est fragile à deux égards. Les effets sur l'économie américaine elle-même, parce que même les Américains eux-mêmes peuvent commencer à avoir quelques doutes sur ce que cela veut dire pour eux. Et puis, la solidité juridique, la Cour suprême des États-Unis est en train de regarder et pourrait donner sa décision dans les prochains jours si c'est conforme, si la base juridique prise par le président Trump sur les pouvoirs d'urgence en temps de paix permet de prendre ce genre de mesures. De notre côté, on a vécu ces épisodes de droits de douane récemment et lors du premier mandat. Je pense que il faut précisément rester calme, mais aussi dans ce cas-là dire ce que nous ferons. Ce que nous ferons, d'autres pays l'ont fait l'année dernière, l'ont fait avec succès. Ces droits de douane de 200%, ça n'a pas d'autre sens que de fermer le marché, tout simplement. Donc, est-ce que, comme nous l'avions fait d'ailleurs sous le premier mandat, où il y avait des menaces de droits de douane, certaines d'ailleurs mises en œuvre et des réponses de l'Union européenne, mais à des niveaux plus faibles, nous ne devons pas tout simplement dire, eh ben, si vous mettez des droits de douane sur ces produits, malheureusement, nous sommes amené à considérer des droits de douane sur tel autre produit ou à utiliser un règlement que nous avons dans nos tiroirs, que nous avons adopté, qui est le règlement anti-coercition. Mais encore une fois, en disant très calmement que ce n'est absolument pas notre intérêt, que nous ne voulons pas le faire et que nous proposons tout simplement d'abord d'en parler.
Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est le titre de votre livre, Philippe Étienne, Monsieur l'ambassadeur de France. Vous y racontez votre quotidien d'ambassadeur en ambassade et puis surtout aux côtés du président de la République. J'aimerais que vous nous placiez en situation ultra confidentielle quand un événement international arrive et que vous êtes consulté par le président de la République. Ça peut être l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça peut être la réception de Vladimir Poutine à Versailles. Vous avez organisé ça au début du mandat d'Emmanuel Macron. Comment ça se passe ? Quel niveau d'écoute ? Quelle est votre contribution aux décisions prises par le président de la République ? Et surtout, qu'avez-vous appris de sa façon d'aborder les relations internationales ?
Je pourrais vous citer mes exemples, effectivement, que j'explique en détail dans mon livre. Par exemple, pour en rester à Donald Trump, la manière dont nous avions avec le président de la République, ont décidé de maintenir et même de confirmer l'invitation au 14 juillet 2017. Vous savez, après qu'il ait retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, tout en résistant très fermement et en défendant l'accord de Paris sur le climat, ce qu'à l'époque nous avons fait avec succès. Mais ce qui me revient aussi à l'esprit, c'est l'attaque du dictateur syrien Assad contre sa population, où nous avons dû réagir très vite parce qu'en recevant Vladimir Poutine à Versailles, Emmanuel Macron avait rappelé que les lignes rouges devaient être défendues. Et là, on parlait de cette ligne rouge-là, l'utilisation des armes chimiques contre son propre peuple. Vous vous souvenez ce que les Américains n'avaient pas fait en 2013.
Bien sûr.
Et donc là,
sous Barack Obama.
Oui. Et donc là, nous avons fait. Et nous avons fait. Et pour répondre à votre question, eh bien, il y a des concertations très, très, très immédiates. Il y a évidemment la réunion de ce qu'on appelle le Conseil de défense, mais il y a surtout, en ce qui me concernait à l'époque, des contacts pris immédiatement avec les autres pays concernés, en l'occurrence à l'époque les États-Unis et le Royaume-Uni, et le déclenchement de l'action.
Comment vous définissez la diplomatie d'Emmanuel Macron ? Quelles caractéristiques vous lui donneriez ?
C'est quelqu'un qui va au contact en particulier quand on n'est pas d'accord avec un autre dirigeant, et qui prend ce dialogue d'une manière très objective, qui ne cherche pas à montrer une espèce d'un déplaisir de principe de parler à telle ou telle personne. Non, mon interlocuteur représente tel pays, je le respecte pour ça, mais je ne suis pas d'accord et on va tout de suite instruire le désaccord.
Qu'est-ce qui est le plus simple pour les diplomates du Quai d'Orsay aujourd'hui ? Comprendre Poutine ou comprendre Trump ?
Alors, je crois que les deux, maintenant, sont assez bien identifiés. Ce qui est peut-être plus difficile à faire avec Donald Trump, dont on comprend bien à la fois les objectifs et la manière de faire, c'est comment il va agir. Et là, quand on parle de l'imprévisibilité de Donald Trump, c'est pas tellement les lignes de fond, c'est pas tellement la méthode ou le style.
On sait ce qu'il veut, mais on sait pas comment.
C'est les décisions qui décident finalement, à court terme, d'annoncer ou les intentions, les moyens de pression. S'agissant de Vladimir Poutine, j'allais dire, hélas, on voit très bien, parce qu'il a souvent dit, répété, qu'il n'avait pas changé ses objectifs, quelle est sa priorité, quel est son objectif, et sa priorité et son objectif en Ukraine en particulier. C'est relativement clair, ça ne veut pas dire qu'après, on aurait pu prévoir tout ce qu'il a fait, bien sûr, mais enfin, le cadre de sa réflexion, de sa stratégie est relativement clair. Il a été présenté par lui-même à plusieurs reprises.
Vous avez évoqué l'Europe, c'est la conclusion de votre livre. Vous dites, moi j'ai confiance en l'Europe. C'est-à-dire qu'on a fait une construction européenne, on a fait de grandes choses, évidemment, la paix pendant 80 ans, mais on peut encore faire. Alors que les Français doutent, là, il y a un sondage qui est paru aujourd'hui, les Français sur la politique étrangère sont très angoissés, ils sont angoissés sur la place de la France dans le monde, ils sont évidemment angoissés parce qu'ils ont le sentiment que désormais l'Amérique est un ennemi, ce qui nous en fait un de plus avec la Russie. Est-ce que vous avez, vous, là, maintenant, Philippe Étienne, les mots pour les rassurer ?
Alors, je pense que être angoissé, en tout cas être inquiet dans le contexte actuel, c'est tout à fait compréhensible. Ce que je dis, moi, c'est que, et c'est mon expérience personnelle, ce que je raconte dans ce livre, c'est que j'ai vécu plusieurs crises, certes moins graves. Mais à l'époque, on les considérait déjà très très graves. On était parfois au bord du précipice. Par exemple, la crise financière, la crise des dettes souveraines, j'étais le représentant permanent, c'est-à-dire l'ambassadeur de la France à Bruxelles auprès de l'Union européenne. Et je raconte des jours où on était au bord du précipice. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a, par la nature des choses, parce que nous sommes 27 pays, parce que c'est compliqué, nous mettons forcément un peu de temps à prendre les décisions que nous devons prendre. Et là, nous n'avons plus beaucoup de temps.
C'est notre faiblesse
les
d'être lent.
Les choses s'accélèrent.
C'est notre faiblesse d'être lent. Quand quelqu'un crée un ONU bis du jour au lendemain, nous, on concerte, ça prend des semaines et des semaines.
C'est notre faiblesse et c'est aussi, d'une certaine manière, notre force, parce que nous représentons des pays très différents, c'est vrai, mais additionnés et ensemble, nous représentons quelque chose pas seulement d'importance sur le plan politique, mais même, j'allais dire, sur le plan civilisationnel.
Philippe Étienne, le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est paru chez Talendier. Vous étiez au micro de Radio Classique. Nous vous remercions de vos éclairages,
merci.
Monsieur. L'ambassadeur de France, c'est important. Il y en a très peu. Il faut les soigner. Ces grands serviteurs de l'État, à bientôt sur cette antenne quand vous voudrez.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Hervé, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse d'aujourd'hui, l'actualité se résume en quelques nombres.
Et surtout un nombre qui tient en trois chiffres, 49.3, l'article invoqué par Sébastien Lecornu pour faire adopter le budget. Il est en première page de presque tous les journaux. Lecornu se résout à ressortir le 49.3, titre Les Échos et Ouest France, car le Premier ministre avait juré de ne pas y recourir. Avec le retour du 49.3, Lecornu brise sa promesse en échange d'une non-censure du PS, précise Le Monde. De fait, selon Lacroix, les socialistes sont les grands gagnants des choix budgétaires. Un élu socialiste à l'Assemblée le confirme avec enthousiasme en maniant lui-même les nombres. On est 69 députés socialistes et on négocie comme si on était 300. Le Figaro s'en indigne et accuse le gouvernement d'avoir renoué avec le socialisme, avec plus de dépenses et plus d'impôts. Un nombre peut donc en cacher quelques autres. Sous le 49.3, c'est 8 milliards d'euros de taxes sur les très grandes entreprises qui s'annoncent et 25 milliards d'euros de déficit supplémentaire, souligne le journal L'Opinion. Le Parisien cite quant à lui Sébastien Lecornu, qui voit dans ce budget une copie qui permet au pays d'avancer. Mais si on est au bord du précipice, faut-il vraiment avancer?
Le mot « copie » dans le vocabulaire de la haute fonction publique et de la politique mériterait de longs développements sémantiques. Pour Donald Trump, à la Maison-Blanche, le nombre clé, c'est 12. Voilà 12 mois qu'il est revenu au pouvoir à la tête des États-Unis.
Une année en enfer, résume Libération. Il y a un an, à cette heure-ci, écrit son éditorialiste, on savait que ça allait secouer, mais on n'imaginait pas que ce président aux ressorts infantiles et égotistes irait si vite, si fort, si loin. Les Échos résument cette présidence en 4 chapitres pour 4 tabous brisés par Donald Trump. Premièrement, au lieu d'un consensus national, un climat de guerre civile avec les purges dans l'État fédéral et la chasse aux immigrés clandestins. Deuxièmement, le pouvoir solitaire qui contourne le Congrès et politise l'administration. Troisièmement, l'égoïsme en guise de politique étrangère dont les alliés de l'Amérique font les frais. Quatrièmement, le mépris des règles éthiques que Trump fait voler en éclats au cœur du pouvoir, acceptant des cadeaux intéressés et favorisant la fortune de sa famille par ses décisions. Pour le journal Le Monde, le président américain a imposé la culture de l'impunité.
Pour le groupe Renault, le nombre à retenir est 1 milliard d'euros. C'est un énorme contrat en vue et il ne s'agit pas d'automobile.
Scoop à lire dans le mensuel L'Usine Nouvelle. Renault va fabriquer dans ses usines du Mans et de Cléon en Seine-Maritime des drones militaires à longue portée. L'engin est baptisé Corus. Il mesure 10 mètres de long pour 8 mètres de large. Il pourra atteindre la vitesse de 400 km/h et voler jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Le projet est piloté, si l'on peut dire, par la Direction Générale de l'Armement afin de combler le retard français dans le domaine des munitions téléportées. C'est ainsi que les militaires appellent les drones d'attaque. La Russie produit plusieurs centaines de drones de ce type par mois, précise L'Usine Nouvelle, ce qui permet de frapper des cibles, surtout en Ukraine, pour un prix moins élevé qu'un missile classique. Il s'agit donc de porter des coups, mais à moindre coût, car il faut faire aussi des économies sur les champs de bataille.
Dans Le Parisien aujourd'hui en France, un nombre effarant, celui des fausses dénonciations devant les services de police.
En 2024, 3012 procédures ont été ouvertes à la suite d'enlèvements bidons, d'auto-accusations ou d'agressions imaginaires. Le Parisien cite l'exemple de cette femme qui, il y a quelques semaines à Paris, a cru voir 4 hommes jeter un enfant dans le coffre d'une voiture. En fait, c'est une doudoune qu'elle avait prise pour un garçon et le dossier a été classé. Le problème, c'est que la police doit vérifier chaque signalement ou dénonciation. C'est pourquoi les dénonciations mensongères constituent un délit. Chaque année en France, des milliers de fautifs sont poursuivis par la justice. Le délit est passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Quand des personnes s'accusent elles-mêmes, ça relève le plus souvent de la psychiatrie, explique Le Parisien. Parmi les cas de figure, il y a aussi de vraies victimes qui dénoncent de faux coupables. En 2022, la Cour de révision a annulé la condamnation d'un homme pour le viol d'une adolescente qui était en réalité victime d'un inceste. Selon Le Parisien, c'est seulement le 12e cas d'erreur judiciaire reconnu par la justice depuis le début de la 5e République. C'est peu.
Pour terminer, l'histoire à lire dans Libération d'un tout petit crustacé qui vit dans l'Antarctique et qui est l'enjeu d'une bataille géopolitique.
Il s'appelle le krill. Et pendant que le monde se focalise sur le Groenland, lui agite les eaux du pôle sud. Il ne mesure que quelques centimètres, mais il regorge d'acide gras et de protéines. C'est pourquoi on le pêche pour le réduire en farine et nourrir les poissons d'élevage ou pour fabriquer des compléments alimentaires. Comme ce crustacé miniature et rose, c'est de lui que les saumons qui le mangent tirent leur jolie couleur. Et dans l'océan austral, écrit Libération, le krill est la clé de voûte de la chaîne alimentaire. Le krill est donc presque parfait, sauf qu'il se déplace en essaim de 20 000 individus par mètre cube, concentration idéale pour les baleines qui n'en font qu'une bouchée au sens propre et pour les pêcheurs dont les bateaux usines n'ont qu'à les aspirer. C'est ainsi que l'an dernier, la quantité de krill pêchée dans l'Antarctique a atteint un niveau potentiellement insoutenable pour l'écosystème. Un seuil de pêche annuel de 1% avait été fixé depuis les années 90. 99% de la biomasse de krill est réservée aux besoins alimentaires des cétacés, ce qui est bien suffisant. Mais le seuil a été dépassé l'an dernier et la Chine et la Russie militent pour rehausser les quotas. Sans compter que l'Ukraine fait aussi partie des pêcheurs de krill, ce qui fait pousser des cris à la Russie. Et voilà comment est née la crise du krill. L'article de Libération se lit comme un SOS.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Échos, et Jean-François Colosimo, essayiste, historien des religions et éditeur. Bienvenue à vous.
Bonjour David.
Bonjour. Ce sera donc le 49-3 pour faire adopter le budget. On dirait que le mode d'administration du médicament est plus important que le médicament lui-même. On en oublie presque ce budget, ce qu'il y a dedans, et qui ne fait pas que des heureux, Cécile.
Non, c'est la double peine. On a beaucoup lâché au Parti Socialiste pour éviter un 49-3. C'était le moment où Sébastien Lecornu disait « on va introduire en France la culture du compromis, je prends cet engagement de lâcher cet outil ». Et à la fin, on a quand même le 49-3. Donc, c'est les deux à la fois. Et c'est, de fait, la parole politique amoindrie, parce qu'il revient sur ce qu'il a dit, mais c'est surtout le fond qu'il faut regarder. C'est vrai que c'est un budget très dépensier, il n'y a pas d'économie. Et à la fin, parce que peut-être on considère que c'est eux qui crient le moins fort, et en tout cas ils ne votent pas de censure, c'est les entreprises qu'on taxe. Donc avec des jeux politiques où on s'est rendu compte que même LR ne défendait pas les entreprises, ils défendent les ménages et ils défendent les retraités. Enfin, on peut faire comme ça le focus sur chaque parti. Le Parti Socialiste a fait la démonstration depuis trois mois que l'impôt est son principal outil. Tout, si vous mettez tout ça additionné, c'est vrai que c'est, disons, loin de ce dont la France aurait besoin pour essayer de redevenir une puissance, puisque c'est quand même par là que ça passe. Or, puissance, tout le monde a ce mot à la bouche, mais personne met les moyens derrière.
Et Jean-François Colosimo, la puissance, c'est de faire un budget qui ne désavantage pas les entreprises au risque de se mettre à dos certaines catégories d'électeurs ?
Essayer de revenir au réel. Là, ce à quoi nous assistons, c'est une histoire de France, malheureusement, éternelle et récurrente. C'est
village gaulois.
Oui, c'est la Gaule des tribus.
C'est la Gaule des tribus.
C'est le royaume des ligues. Et c'est la République des partis, enfin. Et tout ça au détriment de quoi? De la nation, au détriment du pays. Rendez-vous compte, enfin, tous les jours, et vous êtes le premier à nous le dire, n'est-ce pas? Le monde est plongé dans une forme d'incendie. La planète brûle. Les conflits ne cessent de se multiplier. Nous sommes agressés partout, en fait, où nous avons des avantages. Pensez à la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas, qui un jour ne sera plus française, parce que à Paris, on n'aura pas cessé de discutailler pour savoir comment, en fait, attirer le vote des retraités.
Elle sera quoi, alors?
Je sais pas ce qu'elle sera. Elle sera en tout cas sous l'influence d'un de ces grands pays du Pacifique. Le Pacifique, c'est le prochain grand bassin mondial, après la Méditerranée, après l'Atlantique. Nous sommes là-bas en position. C'est un avantage énorme. Nous allons le perdre par une négligence totale, et étant quand même absorbé, encore une fois, pour savoir qui va emporter le vote des retraités. C'est catastrophique.
Vous
c'est
imaginez la Chine
trahison.
Préemptant la Polynésie française?
Mais bien entendu.
Ça peut arriver.
Mais bien entendu. De toute façon, ce Pacifique. Vous vous rappelez d'ailleurs que les États-Unis, la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont menée dans le Pacifique. Pearl Harbor et Hiroshima, n'est-ce pas? Et après, ils sont venus sur le continent européen. Mais pour eux, le Pacifique, c'est leur centre de gravité. On sait que demain, ils affronteront la Chine. Alors, la Polynésie, elle sera américaine, elle sera chinoise, elle sera sous l'influence des Azéris qui jouent le jeu de la Russie, enfin, etc. On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, personne s'en occupe, de la même façon que personne s'occupe ici, n'est-ce pas, au Palais Bourbon, au Luxembourg, de doter la France d'un véritable budget militaire, alors que nous voyons bien que, ne serait-ce que l'affaire du Groenland, n'est pas, nous sommes menacés de toutes parts. On est dans l'irréalisme le plus absolu. On est chez Uberoi, n'est-ce pas? Il y a vraiment quelque chose de complètement affligeant. Or, c'est une éternelle histoire française. Il y a toujours des élites pour trahir, n'est-ce pas? Et moi, je ferai remarquer, et j'ose le faire, et parce que on trouvera que c'est exagéré. Ça n'est pas exagéré. Comme il est arrivé parfois déjà dans notre histoire, aujourd'hui, ce sont nos compatriotes juifs qui sont à la peine, n'est-ce pas? Et ça, c'est un signe irrécusable de perte de l'esprit français. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est un signe terrible.
On reparlera de ce que vous appelez clairement l'antisémitisme, mais je voudrais revenir quand même au sursaut français. Éventuellement, est-il possible? Je vois que nos compatriotes commencent à intégrer l'anxiété diplomatique et des relations, les crises internationales dans leurs préoccupations. Là, il y a un sondage qui est paru aujourd'hui qui dit que nos compatriotes redoutent les relations avec les États-Unis, qu'ils estiment que les États-Unis sont devenus un ennemi. Petit à petit, ça infuse. La question, l'enjeu, la contrainte internationale arrive à l'esprit de nos compatriotes. C'est peut-être comme ça que les politiques changeront, Cécile Cornudet?
Peut-être, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé en France depuis l'arrivée de Donald Trump. Il y a une étude qui mesure de quelle personnalité les médias français ont le plus parlé dans le mois écoulé. Traditionnellement, c'est le président de la République. Et depuis quelques mois, c'est Donald Trump. Donald Trump s'est invité dans la conversation des Français, est devenu un personnage politique français. Il n'y a plus d'émissions, heureusement, sur la politique française. Il n'y a que des émissions sur la situation internationale. Et les Français, voilà, commencent à intégrer. Alors qu'on a toujours dit que, en tout cas, dans la décision de vote, toutes les questions internationales ne les intéressaient pas. Là, quelque chose est en train de se passer. Est-ce que pour autant, les Français prennent la mesure du danger, du risque de guerre, de la nécessité effectivement, comme dit Jean-François, de se réarmer? Est-ce que cette menace-là, ce sentiment de bascule a vraiment percolé? Je ne pense pas encore. Je pense qu'on est encore dans l'autruche, dans on ne veut pas entendre. Il y avait le chef d'état-major des armées, il y a quelques semaines, qui avait dit qu'il faudrait envoyer des troupes, et ça avait créé un émoi pas possible. Mais bon, peut-être qu'on est au début d'une prise de conscience.
Je remarque une chose, Jean-François Colosimo, c'est que circule sur Internet, dans certains milieux, dans certains comptes Twitter, de la part de certaines personnes, cette idée que j'ai lu ça, les élites veulent la guerre, pas l'homme du peuple. Et là, il y a quelque chose qui sent pas très bon quand même, parce que quand les élites disent il faut affirmer un rapport de force, il faut réaffirmer la place de la France dans le monde, etc., ça passe par un discours non pas belliqueux, mais un discours qui prône la remilitarisation ou l'esprit de défense. Il y a toujours des gens pour accuser les élites d'être des va-t-en-guerre.
Alors, je voudrais qu'on soit précis. Ce ne sont pas les élites, ce sont certaines élites qui pensent la guerre. Ce sont les élites qui sont informées de l'état du monde. À savoir, finalement, quoi, l'Élysée, les militaires et les services, n'est-ce pas? Et probablement aussi, parmi vos confrères, ceux qui traitent de l'étranger. Bon, je veux dire, eux sont, je dirais, ils ont le nez collé sur l'évidence. Donc, voilà, les autres élites, est-ce que vous croyez que les députés actuellement se préoccupent du destin demain de la France? Non. À l'échelle universelle, où ils s'occupent en fait de leur petite circonscription, pas, et de leur possible réélection ou non-réélection? Où sont-ils face au danger du monde? Nulle part. Le véritable problème, c'est que la France, c'est quoi quand la France ne se projette pas à l'échelle du monde, à l'échelle universelle? Qu'est-ce que nous devenons? Enfin, nous devenons un petit pays à la dérive. Quand nous ne rêvons pas grand, nous devenons pire que petit.
Non, ça pose la question de comment on peut faire progresser les esprits. Au moment du Covid, il y avait des médecins sur tous les plateaux pour expliquer le risque, le danger qui arrive. Est-ce qu'il faut arriver à la même situation? Qui peut faire la pédagogie de ce basculement du monde?
L'instant... C'est nous.
Voilà, c'est ça.
Vous.
On le fait en ce moment.
C'est vous, Jean-François Colosimo. C'est vous, Cécile Cornudet, dans Esprit Libre sur Radio Classique. Pendant qu'on discute sur l'efficacité du gouvernement, la terre tourne, vous l'avez dit. Un conseil pour la paix pour Gaza, avec une composition étonnante, lancée par Donald Trump, Javier Milei, l'Argentin, Lula, le Brésilien, Orban, le Hongrois, le roi Abdallah de Jordanie, Giorgia Meloni d'Italie, quelques autres encore. La France a refusé d'y entrer. Poutine a été convié, il a réservé sa réponse. Et surprise, Netanyahou n'en veut pas. C'est un conseil de la paix fabriqué de toutes pièces par Trump. Il y a même un droit d'entrée, hein. Il faut payer 1 milliard. C'est un alter ONU. Il y avait les alters vérités, et maintenant il y a les alters Nations Unies. Alors je ne dis pas que les Nations Unies c'est merveilleux, mais enfin ça existait.
Oui, enfin il y a surtout l'idée que voilà, oui vous avez raison, c'est un peu comme la table de poker, n'est-ce pas? Ben vous venez, mais il faut la mise de départ, hein, et vous êtes en quelque sorte convié dans une forme de consortium qui fait de l'affaire de Gaza d'ailleurs une affaire économique selon une illusion constante, en fait, je dirais, de l'Occident, à savoir que l'amélioration des conditions matérielles suffit à gagner la paix des consciences. On a vu exactement le contraire tout au long du XXe siècle, n'est-ce pas? Hein, je dirais que souvent, l'agressivité des peuples et leurs revendications montent au fur et à mesure qu'on pense les avoir achetées.
On a même en Europe des régions qui sont riches.
En plus, on ajoute l'insulte, en quelque sorte, à la revendication.
Pour mettre de l'eau à votre moulin, il y a en Europe des régions très riches économiquement, et la richesse économique ne suffit pas, elles revendiquent leur autonomie, voire leur indépendance. Je pense à la Catalogne, je pense aux Flamands en Belgique, et à d'autres.
Et pensez aussi que, évidemment, les exécutants, les terroristes djihadistes qui sont en train de faire péter leur ceinture sont très souvent de pauvres gars, mais les penseurs derrière sont tous des gens qui ont son Bac+5, Bac+8. C'est un peu ça aussi, l'illusion que l'intelligence suffit à dispenser la barbarie. Or, ce que nous avons appris au XXe siècle, c'est quoi? Ben, c'est qu'on pouvait écouter Mozart à midi et torturer à 14h, et que c'est pas contradictoire. En fait, c'est ça le grand échec, n'est-ce pas? Alors, il y a eu un échec par la Bildung, l'éducation, maintenant il y a un échec par le commerce. La commercialisation, on va transformer les peuples rebelles en peuples consommateurs et tout va aller bien. Et entre-temps, on aura fait de bonnes affaires. Voilà. Ça, je dirais, c'est véritablement la limite terrible du système Trump.
Cécile Cornudet, pour terminer, je voudrais que vous nous parliez peut-être, je vous avais pas prévenu, hein, je suis désolé, mais je suis sûr que vous avez une idée sur la question. Il y a Davos, là. Oui. Il va se passer beaucoup de choses. Oui. Ça va être un lieu de haute politique, de grandes formules.
C'est le Davos ou poète cette année, oui.
Ah, mais il y a Donald Trump. Il y a son opposant numéro un, le gouverneur de Californie, qui va être là-bas, qui est un type assez brillant et assez étonnant. Gavin Newsom, si je n'écorche pas son nom, gouverneur de Californie. Il va y avoir une soixantaine de chefs d'État. Évidemment, le gratin du monde économique. Et Emmanuel Macron va y aller. Et il faut s'attendre à un coup d'éclat du président de la République qui aime bien donner le change à Donald Trump.
Alors, je ne sais pas s'ils vont se croiser, parce que Emmanuel Macron y va aujourd'hui et Donald Trump demain. C'est Frédéric Merz qui a dit que lui essaierait d'avoir un rendez-vous avec Donald Trump. Emmanuel Macron ne l'a pas dit comme ça. Mais oui, ça va être une scène où les rapports sont tellement électriques en ce moment. Vous avez vu que Donald Trump a rendu public un SMS que lui avait envoyé Emmanuel Macron. Ça se joue à devant les caméras maintenant, la diplomatie. Je pense pas que ce soit un mieux.
Mes amis, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine après ces discussions passionnantes. Je vous propose de nous quitter en musique avec Rameau, un extrait des Indes Galantes. Et ça s'appelle Les Sauvages. Alors, on ne sait plus trop qui sont les Sauvages aujourd'hui. À l'époque, c'était ce qu'on appelait les bons Sauvages. Maintenant, les Sauvages sont parfois en costard-cravate avec cravate rouge, évidemment. Les Sauvages de Rameau.
Radio Classique. Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier.
Radio Classique, la musique avant tout.
Bonjour à tous. Si je vous parle d'Arsinoé, vous vous dites, ça y est, il est parti chez Molière. Non, c'est l'autre Arsinoé, la vraie, dont je vais vous parler, la sœur de Cléopâtre.
Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.
Nous sommes à Alexandrie en 55 avant Jésus-Christ. Un homme débarque sur les quais escorté par des légionnaires romains. C'est Ptolémée XII qu'avec un peu de mépris, on a pris l'habitude de surnommer Laulette. Laulette, c'est-à-dire le joueur de flûte. Vous voyez comme on respecte ce pharaon. Il a été chassé du pouvoir par son peuple 3 ans plus tôt. Il a tout vendu, tout promis pour retrouver le pouvoir. Et surtout, il a acheté l'appui du gouverneur de Syrie, Aulus Gabinius, qui est un proche de Pompée. Seulement, le retour du roi pharaon sur son trône est un retour sanglant. Et en son absence, la foule a porté au pouvoir sa fille, Bérénice. Ce qui veut dire que pour Ptolémée, il n'y a plus de tergiversation possible. La sentence est sans appel, la trahison va se payer par le fer. Et dans l'obscurité d'une alcôve du palais royal, voilà deux silhouettes qui, pétrifiées, assistent à l'irréparable. Ce sont deux jeunes filles dont les yeux s'écarquillent de terreur en voyant leur sœur, en voyant cette reine éphémère conduite au bourreau sur ordre de leur propre père. Les deux jeunes filles, ce sont Cléopâtre, qui a une quinzaine d'années à l'époque, et puis la petite Arsinoé, qui n'a que 10 ans. Quelle leçon politique inaugurale pour des enfants, vous imaginez. Ces petites filles, ces jeunes filles qui vont apprendre dans la violence que chez les Lagides, c'est le nom de la dynastie qui règne depuis Alexandre le Grand sur l'Égypte, chez les Lagides, le pouvoir ne se partage pas, il s'arrache. C'est en quelque sorte un traumatisme fondateur qui va rester gravé dans l'esprit de Cléopâtre, et nous savons quelles conséquences tout ça pourra avoir, mais aussi gravé dans l'esprit d'Arsinoé comme, en quelque sorte, le premier acte d'une tragédie dont elle ne sera hélas que la victime finale. On va faire un petit saut de 4 ans dans le temps. On est en février 51 avant Jésus-Christ. Ptolémée s'éteint à ce moment-là. Et derrière lui, il laisse ce royaume exsangue après un règne calamiteux, vous l'aurez compris. L'Égypte est criblée de dettes envers Rome. Il n'y a rien de pire pour une grande puissance que d'être très endettée. Je dis ça, je ne dis rien. Avec une progéniture prête à s'entre-déchirer, le tempérament de Ptolémée XII a fait des horreurs. Et son testament désigne Cléopâtre, qui donc a 18 ans, et désigne son frère, le frère de Cléopâtre, Ptolémée XIII, qui a 10 ans, comme successeur. Et selon la tradition, ils vont devoir se marier pour régner ensemble. Le petit roi n'est qu'une marionnette aux mains de ses conseillers. Et l'eunuque Potin, le général Achillas, qui ne supporte pas l'autorité de Cléopâtre, dont le caractère est déjà bien trempé, sont en vérité les véritables détenteurs du pouvoir. Fin 49, il fomente un coup d'État, il chasse Cléopâtre d'Alexandrie, elle doit s'enfuir en Syrie, seulement elle n'est pas seule, puisqu'elle est accompagnée par sa petite sœur, Arsinoé. Elle apprend, Arsinoé, à cette école qui est la terrible école de l'exil, elle apprend que rien n'est jamais acquis décidément sur ce trône des Ptolémées.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors allons voir de l'autre côté de la Méditerranée, si vous voulez bien, Pompée, qui est le grand adversaire de Jules César. Pompée est vaincu par César à la bataille de Pharsale. Il est en fuite maintenant, il espère trouver refuge en Orient, en Égypte, chez Ptolémée, parce qu'il entretient de bonnes relations avec Cléopâtre. Et il avait entretenu d'excellentes relations avec leur père, avec Ptolémée XII, et qui l'avait protégé autrefois. Et donc, à peine a-t-il posé le pied sur le sol égyptien que Pompée est assassiné. L'ordre a été donné par le jeune roi, mais l'idée, c'est l'idée de ses conseillers qui jugeaient la situation de Pompée désespérée et qui ont espéré de cette manière gagner les faveurs de César. Et pourquoi pas demander à César de les aider à se débarrasser de la sœur rebelle, hein, pourquoi pas après tout. César ne va pas faire du tout ce qu'ils attendaient. D'abord, quand il arrive à son tour en Égypte et qu'il se voit offrir la tête de Pompée, il est furieux. En tout cas, il fait semblant d'être furieux. Je ne sais pas si c'est vrai au fond. On dit qu'il aurait pleuré en voyant la tête meurtrie de son vieil ennemi. La vérité, c'est que César, qui décide de s'installer à Alexandrie, non pas en invité, vous l'aurez compris, mais en maître absolu, César, désormais, a les mains libres pour s'occuper de l'Égypte. Je devrais même dire pour occuper l'Égypte. César, dans sa morgue romaine, a convoqué les héritiers de l'Aulette pour arbitrer leur querelle. Il y a donc là Ptolémée XIII, cette espèce de petit manipulateur manipulé par ses propres conseillers. Et puis surtout, il y a Cléopâtre. Alors, est-ce que l'histoire du tapis est vraie? Toujours est-il que César va tomber amoureux de la belle Cléopâtre et dans un coin de cette cour devenue prison, observe toujours Arsinoé. Vous allez me dire, elle est là toujours, elle. Mais oui, elle est aux premières loges, Arsinoé, pour voir sa sœur aînée déployer tous ses charmes, faire assaut d'esprit pour donner de son corps afin de séduire César. Ce dernier, qui est tout à son idylle, n'a pas non plus l'intention d'agir de manière insensée. Et pour maintenir la paix, qui est le seul moyen d'assurer l'envoi de blé à Rome, faut pas oublier que l'Égypte à l'époque, c'est le grenier à blé de Rome, César décrète le retour au testament de Ptolémée XII. Ce qui veut dire que Cléopâtre et Ptolémée XIII, de nouveau, vont devoir régner ensemble. Et Arsinoé, me direz-vous, et le plus jeune des frères, Ptolémée XIV, eh bien on leur offre Chypre pour les apaiser, pour contrebalancer le pouvoir égyptien. Personne n'est dupe, hein. Arsinoé n'est pas autorisé à quitter Alexandrie et tout le monde va rester sous la surveillance de César. Mais pendant ce temps, dans la ville, gronde une forme de tension. Et oui, ça c'est la présence des Romains qui veut ça, hein. Et dans le silence de ses appartements, la jeune Arsinoé comprend qu'elle va devoir agir si elle n'a pas l'intention de finir comme une simple figurante dans l'ombre de sa sœur. Les événements qui suivent vont lui offrir une espèce de porte de sortie. Depuis des semaines, Achillas, le général de Ptolémée XIII, rassemble l'armée égyptienne qui maintenant est devant Alexandrie, prête à attaquer les effectifs de César qui évidemment sont très faibles puisque César est venu avec seulement quelques troupes. Et contre toute attente, les légionnaires romains vont réussir néanmoins à opposer dans les rues, sur les places d'Alexandrie, vont opposer une défense ferme à cette attaque des troupes de Ptolémée XIII. Dans la confusion, Arsinoé parvient à tromper la vigilance des sentinelles romaines. Elle s'échappe du palais de son geôlier, si je puis dire. Elle est là avec son eunuque qui s'appelle Ganymède. Et tous deux vont rejoindre le camp de l'armée égyptienne qui est en train d'assiéger le quartier royal. C'est une déflagration quand elle arrive, hein. Pour le peuple, pour les soldats qui exècrent l'ingérence romaine, elle devient une espèce de symbole. Arsinoé incarne la résistance égyptienne aux Romains et l'armée la proclame reine d'Égypte, la voilà, propulsée au premier plan. Elle montre d'ailleurs une espèce d'autorité à laquelle on ne s'attendait pas. Elle va même faire exécuter Achillas pour assurer son propre pouvoir sur les troupes et durant le siège, elle va acculer César et Cléopâtre qui sont de plus en plus en mauvaise posture. Elle a l'air prête à rayer sa sœur de l'histoire. Seulement, les renforts romains finissent par arriver et puis il y a l'extraordinaire génie tactique de César, hein, bien sûr. Bref, pendant la bataille du Nil, les Égyptiens sont finalement écrasés. Ptolémée va se noyer dans le fleuve. Est-ce qu'on l'a noyé? Bref, quant à Cléopâtre, elle triomphe maintenant. Arsinoé est capturée. Elle est la captive de sa sœur. La danse d'Arsinoé, extraite de cette suite de ballet La Nuit d'Égypte d'Anton Arensky par l'Orchestre Symphonique d'État de l'Union Soviétique sous la direction de Evgeny Svetlanov.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Été 1946, on peut dire que Rome s'apprête à vivre des jours de liesse comme elle n'en avait jamais connu. César, après avoir annexé la Gaule, vaincu Pompée, soumis l'Égypte, mais soumis le pont aussi, Veni, Veni, Vici, vous savez. Bref, il a écrasé maintenant les derniers partisans de Pompée en Afrique, dont le roi Juba de Numidie. César, donc, connaît son triomphe. Il rentre à Rome devant un peuple qui n'en peut plus, un Sénat qui est bien obligé de l'accueillir à bras ouverts. Et dans les bagages du victorieux César, la jeune Arsinoé, qui rejoint la longue liste des souverains vaincus par César et qui attendent dans les prisons romaines le jour du triomphe du vainqueur. Il y en a d'autres, hein. Il y a Vercingétorix aussi, bien sûr. D'ordinaire, les femmes sont épargnées par le traitement qu'on inflige aux vaincus. Vercingétorix a été promené, exhibé dans les rues. Ce n'était pas le cas du tout des femmes. Seulement, pour Arsinoé, César décide de faire une exception. Peut-être parce qu'elle lui a tenu tête et qu'il s'est senti menacé quand il était enfermé, encerclé dans Alexandrie. Peut-être aussi pour bien montrer que l'Égypte est désormais sous la coupe de Rome. Et si Cléopâtre avait insisté pour qu'on inflige à sa sœur un châtiment exemplaire? Toujours est-il que, le jour venu, Arsinoé est conduite dans les rues de Rome, chargée de chaînes. Alors certes, les chaînes sont dorées, mais enfin ça change pas grand-chose. La foule se presse pour voir cette jeune captive. Un spectacle qui ne produit pas l'effet escompté, puisqu'au lieu des huées habituelles, eh bien, ce qui saisit la foule, c'est l'émotion en vérité, oui. De voir cette jeune et belle princesse, cette descendante de Ptolémée Sauter, traîner comme ça dans la poussière, comme un vulgaire barbare. Non, là, vraiment, les Romains trouvent que c'est trop. Le peuple murmure, on s'apitoie. Et César, qui a un sens absolument aigu de l'opinion, comprend qu'il ne va pas pouvoir mettre à mort Arsinoé comme l'aurait voulu la tradition. Au lieu de l'étranglement rituel dans la prison du Tullianum, il décide donc d'épargner la sœur de celle qu'il aime et de l'envoyer en exil à Éphèse, en Asie mineure, pour vivre comme suppliante dans le sanctuaire d'Artémis. Une fonction sacerdotale qui, théoriquement, devrait l'empêcher de prétendre au trône d'Égypte. C'est une façon de régler le problème de la succession d'Égypte et d'assurer sa maîtresse, Cléopâtre, qu'on ne viendra pas lui disputer son pouvoir et que cette sœur, un peu trop remuante, est définitivement mise au rancard. Cléopâtre, qui est présente à Rome, hein, bien sûr, et qui assiste à la scène du triomphe, Cléopâtre, on doit pouvoir imaginer son agacement d'ailleurs, Cléopâtre aurait aimé qu'on soit plus sévère. Tant qu'Arsinoé respire, elle est une menace pour elle, parce que pour certains Égyptiens, Arsinoé a autant de droits au trône que Cléopâtre elle-même, peut-être même davantage, puisque contrairement à sa sœur, elle n'a pas choisi Rome contre son propre peuple. Au contraire, elle est devenue le symbole de la résistance à Rome. Cléopâtre, en vérité, n'a pas oublié la leçon reçue, adolescente, dans l'ombre du palais d'Alexandrie. Le pouvoir ne se partage pas chez les Ptolémées, il s'arrache et la graine de la méfiance a été plantée. Il va falloir maintenant 4 ans pour qu'elle germe cette graine-là et pour qu'elle porte son fruit empoisonné.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Donc les années passent et en 44, César est donc assassiné aux Ides de Mars. Rome replonge dans la guerre civile, vous le savez. Cléopâtre, qui a perdu son protecteur, doit séduire le nouvel homme fort de l'Orient, qui est donc Marc-Antoine. En 43, un complot à Chypre impliquant le gouverneur Sérapion laisse entendre qu'Arsinoé pourrait encore servir de figure de proue à une rébellion égyptienne contre Rome. Cléopâtre reprend Chypre, fait exécuter Sérapion et peu de temps après, le jeune Ptolémée XIV va mourir. Il a 13 ans, il a été empoisonné. En tout cas, c'est ce que disent les mauvaises langues. Bref, Cléopâtre est à peu près tranquille là maintenant. Mais, il y a toujours Arsinoé. En 41, Cléopâtre a rencontré à Tars, en Turquie, là, elle a rencontré Marc-Antoine avec cette scène célèbre. Elle est sur sa galère somptueuse et un peu comme César 10 ans plus tôt, elle va faire tomber Marc-Antoine sous son charme. Cléopâtre demande un prix pour son alliance, pour son amour. Et ce prix, ce qu'elle demande à Marc-Antoine, c'est la tête de sa sœur. Et Antoine, qui est amoureux, qui est soucieux aussi d'assurer la fidélité de l'Égypte, Marc-Antoine va céder. Au mépris de toutes les lois sacrées qui normalement protègent les sanctuaires, il va envoyer à Éphèse un certain nombre d'hommes de main pour faire assassiner Arsinoé qui meurt dans l'enceinte sacrée. Une fois de plus, le sang d'Elagide a coulé, et cette fois, il a coulé à Éphèse dans cette enceinte sacrée. Près de 2000 ans plus tard, je dis bien 2000 ans plus tard, en 1926, des archéologues autrichiens découvriront à Éphèse un monument funéraire impressionnant qu'ils appellent l'octogone, en raison de sa forme un peu inhabituelle. Et 3 ans plus tard, ils découvriront un crâne, celui d'une jeune femme morte au 1er siècle avant notre ère. Et de fil en aiguille, on va pouvoir soutenir que ce crâne, c'est celui d'Arsinoé. Hypothèse séduisante, sauf qu'en 2024, des chercheurs de l'université de Vienne vont soumettre ce crâne à des analyses génétiques et à des examens physiques pour conclure que le squelette n'appartient pas à une femme mais à un garçon. C'était un jeune Romain qui avait entre 11 et 14 ans, qui souffrait de graves troubles du développement. Et voilà, terminé la fiction qui a duré près de 100 ans, hein, de 1926 à 2024. Le lieu où repose Arsinoé, sœur de Cléopâtre, est donc inconnue. Peut-être qu'elle dort encore quelque part sous les ruines d'Éphèse, parcourue par tous ces milliers de touristes. Peut-être que son corps a été jeté à la mer, ou qu'il a été brûlé sans cérémonie, on ne le saura jamais. Reste son histoire, l'histoire de la petite princesse qui, pas très longtemps, aura osé défier César, l'histoire de cette reine éphémère qui a tenu Alexandrie pendant un an, de cette captive qui a marché enchaînée mais digne dans les rues de Rome, de cet exilé assassiné dans un temple sacré sur ordre de sa propre sœur, point final d'une tragédie qui avait commencé 20 ans plus tôt. Oui, 20 ans, figurez-vous, c'est pas long quand même.
Vous écoutez Radio Classique.
Radio Classique.
La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la matinale de l'économie. Nous sommes le 21 janvier. La France est-elle en train de passer progressivement en économie de guerre? Plusieurs groupes civils sont en train de franchir le pas. Le constructeur automobile Renault va fabriquer des drones militaires en partenariat avec Turgis Gaillard. C'est un groupe industriel spécialisé dans l'aéronautique et la défense. De son côté, le gestionnaire de stationnement Indigo a débuté la transformation des parkings parisiens. Le premier va devenir un centre logistique, mais d'autres parking pourrait devenir des centres de commandement militaire ou encore des espaces de sécurité et de protection de la population. Xavier Heulin, le directeur général d'Indigo, sera l'invité des Voix de l'économie ce matin à 7h15. Dans l'actualité également, les producteurs de vin et de champagne directement visés par Donald Trump. Le président américain veut leur imposer 200% de droits de douane, autrement dit, leur barrer l'accès au marché américain. Quelles sont les solutions de repli? Est-ce que d'autres marchés peuvent constituer un plan B? Nous y reviendrons dans nos différentes éditions ce matin. Il est 5h59, la météo. Avec Lénaïque Monnier, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Une nouvelle perturbation aborde la Bretagne et le Nord-Ouest.
Oui,
et
d'ailleurs les départements du Finistère et du Morbihan sont placés en vigilance orange, pluie, inondation jusqu'à cet après-midi. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire seront donc sous la pluie, tandis que le temps restera souvent couvert du centre au bassin parisien. Temps sec et ensoleillé en revanche sur tout l'est du pays.